Petites misères de la vie conjugale, deuxième partie, chapitre 15. Faire four. Les femmes, et surtout les femmes mariées, se fichent des idées dans leur dure mère, absolument comme elles plantent des épingles dans leur pelote. Et le diable, entendez-vous, le diable ne les pourrait pas retirer. Elles seules se réservent le droit de les y piquer, de les dépiquer et de les y repiquer. Caroline est revenue un soir de chez Madame Foulepointe dans un état violent de jalousie et d'ambition. Madame Foulepointe, la lionne. Ce mot exige une explication. C'est le néologisme à la mode. Il répond à quelques idées, fort pauvres d'ailleurs, de la société présente. Il faut l'employer pour se faire comprendre quand on veut dire « une femme à la mode ». Cette lionne, donc, monte à cheval tous les jours, et Caroline s'est mise en tête d'apprendre l'équitation. Remarquez que, dans cette phase conjugale, Adolphe et Caroline sont dans cette saison que nous avons nommée « le 18 brumaire des ménages », ou qu'ils se sont déjà fait deux ou trois dernières querelles. « Adolphe, dit-elle, veux-tu me faire plaisir ?»«
Toujours. »
« Tu me refuseras ?»«
Mais si ce que tu me demandes est possible, je suis prêt. » »«
Ah, déjà, voilà bien le mot d'un mari. Si... »«
Voyons,
je voudrais apprendre à monter à cheval. » »«
Mais Caroline, est-ce possible ?»
Caroline regarde par la portière et tente d'essuyer une larme sèche.
« Écoute-moi, reprend Adolphe, puis-je te laisser aller seul au manège ? Puis-je t'y accompagner au milieu des tracas que me donnent en ce moment les affaires ? Qu'as-tu donc ? Je te donne, il me semble, des raisons péremptoires. »
Adolphe aperçoit une écurie à louer, l'achat d'un poney, l'introduction au logis d'un groom et d'un cheval de domestique, tous les ennuis de la lionnerie femelle. Quand on donne à une femme des raisons au lieu de lui donner ce qu'elle veut, peu d'hommes ont osé descendre au fond de ce petit gouffre appelé le cœur pour y mesurer la force de la tempête qui s'y fait subitement.
« Des raisons, mais si vous en voulez, en voici !» s'écrie Caroline.
« Je suis votre femme, vous ne vous souciez plus de me plaire. Et la dépense donc, vous vous trompez bien en ceci, mon ami. » Les femmes ont autant d'inflexions de voix pour prononcer ces mots « mon ami » que les Italiens en ont trouvé pour dire « amico ». J'en ai compté 29 qui n'expriment encore que les différents degrés de la haine.
« Ah, tu verras, » reprend Caroline, « je serai malade et vous paierez à l'apothicaire et au médecin ce que vous aurez coûté le cheval. Je serai chez moi claquemurée et c'est tout ce que vous voulez. Je m'y attendais. Je vous ai demandé cette permission sûre d'un refus. Je voulais uniquement savoir comment vous vous y prendriez pour le faire. »
« Mais, Caroline, me laissez seule au manège, » dit-elle en continuant sans avoir entendu.
« Est-ce une raison ? Ne puis-je y aller avec Madame de Fichetaminel ? Madame de Fichetaminel apprend à monter à cheval, et je ne crois pas que Monsieur de Fichetaminel l'accompagne. »
« Mais, Caroline,
« je suis enchantée de votre sollicitude. Vous tenez beaucoup trop à moi, vraiment. Monsieur de Fichetaminel a plus de confiance en sa femme que vous en la vôtre. Il ne l'y accompagne pas, lui. Peut-être est-ce à cause de cette confiance que vous ne voulez pas me voir au manège ? Ou je puis être témoin du vôtre avec la Fichetaminel ?»
Adolphe essaie de cacher l'ennui que lui donne ce torrent de paroles, qui commence à moitié chemin de son domicile et qui ne trouve pas de mer où se jeter. Quand Caroline est dans sa chambre, elle continue toujours.
« Tu vois que si des raisons pouvaient me rendre la santé, m'empêcher de souhaiter un exercice que la nature m'indique, je ne manquerais pas de raisons à me donner, que je connais toutes les raisons à donner, et que je me les suis données avant de te parler. »
Ceci, mesdames, peut d'autant mieux s'appeler le prologue du drame conjugal, que c'est rudement débité, commentée de gestes, ornée de regards et autres vignettes avec lesquelles vous illustrez ses chefs-d'œuvre. Caroline, une fois qu'elle a semé dans le cœur d'Adolphe l'appréhension d'une scène à demande continue, a senti sa haine de côté gauche redoubler contre son gouvernement. Madame Boud éboude si sauvagement qu'Adolphe est forcé de s'en apercevoir, sous peine d'être minotaurisé. Car tout est fini, sachez-le bien, entre deux êtres mariés par monsieur le maire, ou seulement à Gretna Gwyn, lorsque l'un d'eux ne s'aperçoit plus de la bouderie de l'autre. Axiome, une bouderie rentrée est un poison mortel. C'est pour éviter ce suicide de l'amour que notre ingénieuse France inventa les boudoirs. Les femmes ne pouvaient pas avoir les saules de Virgile dans le système de nos habitations modernes. À la chute des oratoires, ces petits endroits devinrent des boudoirs. Ce drame conjugal a trois actes. L'acte du prologue, il est joué. Vient l'acte de la fausse coquetterie. C'est un de ceux où les Françaises ont le plus de succès. Adolphe vague par la chambre en se déshabillant, et pour un homme, se déshabiller, c'est devenir excessivement faible. Certes, à tout homme de 40 ans, cet axiome paraîtra profondément juste. Axiome, les idées d'un homme qui n'a plus de bretelles ni de bottes ne sont plus celles d'un homme qui porte ces deux tyrans de notre esprit. Remarquez que ceci n'est un axiome que dans la vie conjugale. En morale, c'est ce que nous appelons un théorème relatif. Caroline mesure, comme un jockey sur le terrain des courses, le moment où elle pourra distancer son adversaire. Elle s'arrange alors pour être d'une séduction irrésistible pour Adolphe. Les femmes possèdent une mimique de pudeur, une science de voltige, des secrets de colombes effarouchées, un registre particulier pour chanter, comme Isabelle au quatrième acte de Robert le Diable. « Grâce à toi, grâce pour moi », qui laisse les entraîneurs de chevaux à 1000 pics au-dessous d'elle. Comme toujours, le diable succombe. Que voulez-vous ? C'est l'histoire éternelle, c'est le grand mystère catholique du serpent écrasé, de la femme délivrée qui devient la grande force sociale, disent les fourriéristes. C'est en ceci surtout que consiste la différence de l'esclave oriental à l'épouse de l'Occident. Sur l'oreiller conjugal, le second acte se termine par des onomatopées qui sont toutes à la paix. Adolphe, de même que les enfants devant une tarte, a promis tout ce que voulait Caroline. Troisième acte. Au lever du rideau, la scène représente une chambre à coucher extrêmement en désordre. Adolphe, déjà vêtu de sa robe de chambre, essaie de sortir et sort furtivement sans éveiller Caroline, qui dort d'un profond sommeil. Caroline, extrêmement heureuse, se lève, va consulter son miroir et s'inquiète du déjeuner. Une heure après, quand elle est prête, elle apprend que le déjeuner est servi. « Avertissez, monsieur !»« Madame, monsieur est dans le petit salon !» « Que tu n'es ben gentil, mon petit homme !» dit-elle en allant au-devant d'Adolphe et reprenant le langage enfantin. « Câlin de la lune de miel !»« Et de quoi ?»« Eh bien, de n'avoir permis que ta Liline monte à Dada !» Observation. Pendant la lune de miel, quelques époux, très jeunes, ont pratiqué des langages que, dans l'Antiquité, Aristote avait déjà classé et défini, voire sa pédagogie. Ainsi donc, on parle en you-you, on parle en lala, on parle en nana, comme les mères et les nourrices parlent aux enfants. C'est là une des raisons secrètes, discutées et reconnues dans de gros in quarto par les Allemands, qui déterminèrent les Kabyres, créateurs de la mythologie grecque, à représenter l'amour en enfant. Il y a d'autres raisons que connaissent les femmes, et dont la principale est, selon elles, que l'amour chez les hommes est toujours petit. « Où donc as-tu pris cela, ma belle ? Sous ton bonnet ? Comment ? Caroline reste plantée sur ses jambes. Elle ouvre des yeux agrandis par la surprise. Épileptique en dedans, elle n'ajoute pas un mot. Elle regarde Adolphe. Sous les feux sataniques de ce regard, Adolphe accomplit un quart de conversion vers la salle à manger. Mais il se demande en lui-même s'il ne faut pas laisser Caroline prendre une leçon, en recommandant à l'écuyer de la dégoûter de l'équitation par la dureté de l'enseignement. Rien de terrible comme une comédienne qui compte sur un succès et qui fait un four. En argot de coulisses, faire four, c'est ne voir personne dans la salle, ni recueillir aucun applaudissement. C'est beaucoup de peine prise pour rien. C'est l'insuccès à son apogée. Cette petite misère, elle est très petite, se reproduit de mille manières dans la vie conjugale, quand la lune de miel est finie et que les femmes n'ont pas une fortune à elles. Malgré la répugnance de l'auteur à glisser des anecdotes dans un ouvrage tout aphoristique, dont le tissu ne comporte que des observations plus ou moins fines et très délicates, par le sujet du moins, il lui semble nécessaire d'orner cette page d'un fait dû d'ailleurs à l'un de nos premiers médecins. Cette répétition du sujet renferme une règle de conduite à l'usage des docteurs parisiens. Un mari se trouvait dans le cas de notre Adolphe. Sa Caroline, ayant fait four une première fois, s'entêtait à triompher, car souvent Caroline triomphe. Celle-là jouait la comédie de la maladie nerveuse. Voyez la physiologie du mariage, méditation 26, paragraphe des névroses. Elle était depuis 2 mois étendue sur son divan, se levant à midi, renonçant à toutes les jouissances de Paris. Pas de spectacle. Oh, l'air empesté, les lumières surtout, le tapage, la sortie, l'entrée, la musique, tout cela funeste, d'une excitation terrible. Pas de partie de campagne. Oh, c'était son désir, mais il lui fallait, desiderata, une voiture à elle, des chevaux à elle. Monsieur ne voulait pas lui donner un équipage. Et aller en locati, en fiacre, rien que d'y penser, elle avait des nausées. Pas de cuisine, la fumée des viandes faisait soulever le cœur de madame. Madame buvait 1000 drogues que sa femme de chambre ne lui voyait jamais prendre. Enfin, une dépense effrayante en effet. En privation, en pose, en blanc de perles, pour se montrer d'une pâleur de morte, en machine, absolument comme quand une administration théâtrale répand le bruit d'une mise en scène fabuleuse. On en était à croire qu'un voyage aux eaux, à Ems, à Hambourg, à Karlsbad, pourrait à peine guérir madame. Mais elle ne voulait pas se mettre en route sans aller dans sa voiture. Toujours la voiture. Cet Adolphe tenait bon et ne cédait pas. Cette Caroline, en femme excessivement spirituelle, donnait raison à son mari. « Adolphe a raison, disait-elle à ses amis. C'est moi qui suis folle. Il ne peut pas, il ne doit pas encore prendre voiture. Les hommes savent mieux que nous où en sont leurs affaires. » Par moments, cet Adolphe enrageait. Les femmes ont des façons qui ne sont justifiables que de l'enfer. Enfin, le 3e mois, il rencontre un de ses amis de collège, sous-lieutenant dans le corps des médecins, ingénu comme tout jeune docteur, n'ayant ses épaulettes que d'hier et pouvant commander feu. « Jeune femme, jeune docteur, » se dit notre Adolphe. Et il propose au Bianchon futur de venir lui dire la vérité sur l'état de Caroline. « Ma chère, il est temps que je vous amène un médecin, » dit le soir Adolphe à sa femme. « Et voici le meilleur pour une jolie femme. » Le novice étudie en conscience, fait causer madame, la palpe avec discrétion, s'informe des plus légers diagnostics, et finit, tout en causant, par laisser fort involontairement errer sur ses lèvres, d'accord avec ses yeux, un sourire, une expression excessivement dubitatif, pour ne pas dire ironique. Il ordonne une médication insignifiante sur la gravité de laquelle il insiste, et il promet de revenir en voir les faits. Dans l'antichambre, se croyant seul avec son ami de collège, il fait un haut-le-corps inexprimable.
« Ta femme n'a rien, mon cher, » dit-il. « Elle se moque de toi et de moi. »
Je m'en doutais. Mais si elle continue à plaisanter, elle finira par se rendre malade. Je suis trop ton ami pour faire cette spéculation, car je veux qu'il y ait chez moi, sous le médecin, un honnête homme.
« Ma femme veut une voiture !»
Comme dans le solo de Corbillard, cette Caroline avait écouté à la porte. Encore aujourd'hui, le jeune docteur est obligé d'épierrer son chemin des calomnies que cette charmante femme y jette à tout moment. Et pour avoir la paix, il a été forcé de s'accuser de cette petite faute de jeune homme en nommant son ennemi afin de la faire taire.